OK, alors bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours « La Bible, livre humain ou divin ». On est à notre avant-dernière leçon. Je pense que le temps des fêtes est approche, hein? Il y a un phénomène d'ours en hibernation. Donc, on est à la leçon 10 du cours. Je m'appelle Yannick Étier. Et puis, le titre de cette leçon, « Ces enjeux ne rendent-ils pas caduques l'inhérence des Écritures » à la lumière de tous les quatre précédentes leçons. Est-ce qu'après avoir dit tout cela, on peut encore croire dans l'inhérence des Écritures? Et c'est ça qu'on va essayer de répondre ensemble ce matin. On va aller ensemble dans un mot de prière. Et Père éternel, je veux te remercier pour ce temps que nous passons à réfléchir, Seigneur, à essayer de comprendre ce merveilleux livre que tu nous as confié, Seigneur, que tu nous as donné. Les chrétiens appuient leur foi sur la Bible depuis des millénaires maintenant, Seigneur. Depuis des siècles et des siècles, Seigneur, on appuie notre foi sur ce livre avec la conviction ferme que tu as parlé et que tu parles encore par ton esprit à travers ce livre. Je te demande de bénir cette étude ce matin, de nous équiper, de nous éclairer, afin, Seigneur, qu'on puisse accompagner des gens dans leurs questionnements et nous-mêmes aussi développer une ferme assurance, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, le cours se termine la semaine prochaine. Ça va être notre dernière leçon. Quelqu'un qui voudrait résumer pour nous... Je cherche mon tech, il n'est pas là. Quelqu'un qui voudrait... Je répéterai votre réponse, d'accord? Alors, je vais vous demander d'être bref. Quelqu'un qui voudrait résumer de quoi on parle lorsqu'on parle d'inhérence des Écritures. Oui, allô? Quelqu'un au rendez-vous? Monsieur Rondeau. De quoi on parle quand on parle d'inhérence des Écritures?
L'inhérence des Écritures, ça veut dire que la Bible ne se trompe pas, elle est exacte dans ce qu'elle est dans les textes originaux.
OK, donc la Bible ne se trompe pas, cette doctrine-là affirme que la Bible ne se trompe pas. C'est ça, elle est inhérente. Et puis, dans les textes originaux, évidemment. C'est bien, merci. Alors, une petite introduction rapidement à cette doctrine-là. Comme je l'ai mentionné déjà à quelques reprises, la théologie, lorsqu'on dit que la théologie se développe puis qu'on continue à progresser dans la théologie, ça peut sonner étrange pour des chrétiens qui sont attachés à la parole. On se dit « tout a été dit, donc il n'y a plus rien à dire, tout a été dit ». Mais en même temps, il y a encore beaucoup à comprendre. Et puis souvent, la théologie se développe en relation avec la culture, avec les questions que la culture environnante pose. Alors, ce point de doctrine-là, qui affirme l'inhérence des Écritures, a été développé spécialement aux États-Unis à travers le 20e siècle en bonne partie. Ça a commencé au 19e siècle, mais c'est dans tout le débat entre les modernistes et puis les fondamentalistes les modernistes ont été prêts à remettre en question certaines affirmations des Écritures pour essayer de s'adapter à une culture qui remettait ça en question. Puis dire peut-être que notre message va être plus accessible ou plus acceptable si on l'ajuste un petit peu. Maintenant, si vous lisez des livres de théologie systématique, si vous lisez des théologies systématiques, vous allez trouver cette doctrine-là formulée avec le terme « inhérence » spécialement dans la littérature américaine. Si on regarde à l'extérieur, si on s'en va en Europe, si on s'en va en Asie, si on s'en va en Afrique, dans ce qu'on va trouver... Des fois, il va être question d'autorité biblique, d'inspiration ou d'infaillibilité. D'accord? Ça va être les termes qu'on va utiliser. Souvent, ça veut dire la même chose. Souvent, ce qu'on a en tête, ce qu'on entend, c'est exactement la même compréhension de l'inhérence. Parfois, non. Alors, parfois, vous allez tomber sur un ouvrage, puis ils vont parler de l'autorité biblique, mais dans une vision un petit peu plus... celle qu'a développée Karl Barth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que Karl Barth a apporté, là, si on essaie de le résumer très, très succinctement? Qu'est-ce qu'il a apporté comme nuance, Stéphane? Oui, oui, dans l'expérience de la parole. Sais-tu? OK. Au niveau de l'expérience de la parole, Karl Barth est celui qui a développé l'idée suivante, c'est que la parole de Dieu, la Bible est parole de Dieu, donc ce livre-là est parole de Dieu, lorsque Dieu s'en sert pour me parler. OK? Est-ce que vous me suivez? Vous avez besoin d'un café? Un espresso? Deux espressos? Je suis à mon troisième. D'accord? C'est pour ça que ça marche dans ma tête, là. Ça va? Donc, Karl Barth a apporté l'idée suivante. C'est qu'il a dit, ce livre-là, la Bible, est parole de Dieu lorsque Dieu me parle à travers ce livre-là. Et donc, ce qui est parole de Dieu pour moi, l'est peut-être pas pour toi. D'accord? Ça laisse la place, et donc dans sa vision à lui, ça laisse la place à ce que la Bible ne soit pas nécessairement inhérente. D'accord? C'est comme si elle devient inhérente par une intervention de l'Esprit-Saint. Mais à ce moment-là, évidemment, la foi devient assez subjective, merci. Vous comprenez? Ça dépend qu'est-ce que Dieu t'a dit puis qu'est-ce que Dieu t'a pas dit à travers la Bible. Puis l'idée qui suit ça ensuite, qui va découler un peu de l'approche de Karl Barth, mais ça va être que finalement, Dieu pourrait peut-être aussi parler à travers d'autres ouvrages. Parce qu'à partir du moment où la Bible devient parole de Dieu, lorsque Dieu te parle à travers la Bible, Dieu pourrait te parler aussi à travers un homme, pourquoi pas. Alors, Dieu pourrait aussi te parler peut-être à travers d'autres livres. D'accord? C'est ce qui découle par la suite. Donc ça, c'est un débat, c'est une approche plus moderniste aux Écritures. Et donc, ce débat-là, les fondamentalistes ont voulu affirmer l'inhérence des Écritures. La déclaration de Chicago, si vous cherchez ça, déclaration de Chicago, est une autre affirmation de l'inhérence des Écritures faite par un bon groupe de théologiens évangéliques. Les types d'inhérence. Ça va être un peu technique aujourd'hui, d'accord? Je vous le dis tout de suite. À la fin, vous allez voir les implications plus pratiques un peu. Les types d'inhérence. Il existe deux approches différentes qui mènent à l'affirmation que l'Écriture est sans erreur. L'une d'elles est inductive et l'autre est déductive. Un petit peu technique. Donc, celle qui est inductive. L'approche inductive commence avec le phénomène de la Bible, c'est-à-dire avec le livre lui-même, avec le texte qu'on a. Définit ce qui pourrait constituer une erreur, analyse attentivement l'Écriture d'un bout à l'autre, puis détermine que rien n'a été découvert qui pourrait être considéré comme erroné. Donc, cette approche-là, l'approche inductive, va dire, bien, tu vas vers le texte, puis on va faire des comparaisons, on va voir si les récits sont contradictoires, on va voir lorsque tu essaies de faire l'harmonisation des évangiles, par exemple. Vous savez c'est quoi l'harmonisation des évangiles? On a trois évangiles synoptiques, trois évangiles très similaires dans leur récit, dans leur développement, Matthieu, Marc et Luc. Et donc, il y a des moments où tu dis, « Oups, attends un petit peu, il s'est-tu passé ça ici? Le coq a chanté combien de fois? Quand est-ce que ça s'est passé? » Tout ça. Puis on essaie d'harmoniser ce récit-là. D'accord? Donc, l'approche inductive, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre le texte biblique, puis elle va voir si le texte a des contradictions à l'intérieur de lui-même, ou si le texte biblique semble vraiment affirmer des choses qui sont fausses historiquement. D'accord? Ça, c'est l'approche inductive. Et c'est pas une mauvaise approche dans le sens que c'est possible même pour, j'aime bien la comparaison que Blomberg fait, c'est possible même pour un, sans intervention divine, d'arriver à un document sans erreur. Fait que l'exemple que lui donnait, il dit, je corrige des travaux d'étudiants constamment, puis un travail qui a été bien fait, à la limite, peut-être qu'il pourrait y avoir des erreurs de frappe, des choses comme ça, mais encore une fois, ce n'est pas de ça dont on parle quand on parle d'inhérence. Vous vous rappelez, on a parlé toute la question de la transmission avec les copistes, il peut y avoir des petites erreurs, des coquilles, des choses comme ça. Mais ce que Blomberg dit, c'est qu'un étudiant au doctorat qui me présente un papier, s'il a bien fait son travail, s'il y a eu des gens qui sont passés et qui ont fait des révisions, il a vérifié toutes ses affirmations, je pourrais ne pas être d'accord avec son analyse, son interprétation des choses, mais tout ce qu'il donne comme étant factuel, ça peut être tout simplement factuel, puis totalement vrai, donc inhérent, sans erreur. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Un bon travail bien fait pourrait être inhérent, il pourrait être sans erreur, sans même une intervention divine. Donc, c'est une approche qui est valable des Écritures. C'est une des manières de défendre l'inhérence des Écritures, c'est d'aller voir si à l'intérieur des Écritures, il y a des erreurs, il y a des contradictions, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des questions juste sur cette approche-là? Ça va. C'est bon? Voilà la prochaine page. L'approche déductive commence avec la conviction que Dieu est l'auteur de l'Écriture, continue avec la prémisse que par définition Dieu ne peut se tromper, et donc conclut que la parole de Dieu doit être sans erreur. D'accord? Ça, c'est un argument qui peut avoir de l'air circulaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me répéter cette approche-là dans vos propres mots? Je comprends là, que c'est un peu conceptuel le matin, là, puis il y en a qui sont peut-être pas en quatrième vitesse pour les concepts. Oui, fait que là, on est vraiment au niveau de la Bible, c'est vrai. Je pars d'un petit peu plus haut. si Dieu existe, que Dieu a inspiré les Écritures, la Bible doit être vraie. Autrement, Dieu n'est pas vrai. Ça serait une contradiction pour Dieu en lui-même, d'accord? Donc, c'est vrai que c'est un argument qui peut paraître circulaire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne tient pas. Ce n'est pas parce qu'un argument semble circulaire. Vous savez, c'est quoi un argument circulaire? C'est un argument qui s'appuie juste sur sa première déclaration. Je fais une déclaration, puis parce que j'ai fait cette déclaration-là, donc ceci, puis je reviens, puis je tourne. Et là, des fois, on va dire, bon, mais ça ne se tient pas, cette affaire-là, mais il y a des arguments circulaires qui sont justes, qui sont vrais, qui sont fondés. Donc, cette approche-là dit, bien, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Dieu existe? Puis si Dieu existe, par définition, si c'est lui qui a inspiré les Écritures, les Écritures vont être sans erreur. Je vous explique un petit peu, là, pour ceux qui ont lu un peu de théologie, là, je pense à Calvin, tout ça, il y a toute une époque à travers les théologies systématiques, lorsqu'on rédigeait des théologies systématiques, où on commençait par la Bible, d'accord? Qui va être l'approche déductive, d'accord? On va commencer par la Bible, je m'excuse, pas déductive, inductive. On va commencer par la Bible, puis on va démontrer que la Bible est parole de Dieu, puis de là, on va dire après, bon, bien, puisqu'elle est parole de Dieu, tout ce qu'elle dit est vrai. Puis il y a plein de théologies systématiques qui commençaient comme ça. Calvin arrive, puis Calvin, il dit, non, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Jean Calvin, il dit, l'être humain ne peut pas se comprendre s'il n'a pas découvert Dieu. Donc, avant d'aller vers le livre lui-même, c'est vers Dieu qu'on doit aller. Fait que lui, il va prendre une approche différente. Il va dire, l'être humain a un présupposé en lui-même, il croit fondamentalement dans l'existence de Dieu. Et à partir de là, on va découler la suite. D'accord? Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous expliquer ces choses-là? C'est parce que d'une part pour défendre l'inhérence des Écritures, mais lorsqu'on est en train de parler avec les gens de l'Évangile, les deux approches sont valables. Je peux m'adapter, d'accord? Paul prend les deux approches. Par exemple, dans Romains 1, bien, il est en train de prendre cette approche-là, il est en train de prendre l'approche déductive. Dans Romains, il dit tout le monde en lui-même, ce sentiment de l'éternité, cette notion que Dieu existe, puis il s'en va chercher ça à l'intérieur du cœur humain, puis après ça, il va tirer des conclusions logiques qui déduit de ça, puis après ça, il va aller vers les Écritures. Est-ce que vous me suivez quand je dis ça? Donc, vous êtes en train de parler de l'Évangile avec quelqu'un, bien oui, ça se peut qu'au début, vous commenciez avec le livre, puis vous êtes dans le livre, puis là, on est en train de débattre. Mais à un moment donné, dans la conversation, il y a quelque chose que la personne dit, qui te dit, dans le fond, que ces vraies questions, ce n'est pas la Bible, c'est des questions existentielles. Oui, mais si Dieu existe, il ne peut pas condamner des gens pour l'éternité. Je peux chercher à répondre à cette question-là à partir des Écritures. Ça se peut que Dieu se serve des Écritures pour le convaincre. Mais vous comprenez que sa question est au-delà même de ça. Sa question fondamentale, c'est injuste, cette affaire-là. D'accord? Fait que je vais aller dans les Écritures, mais j'ai identifié la question existentielle qui fait que même si j'y prouvais que toutes les prophéties se sont accomplies, puis ce livre-là est inspiré par Dieu, à la fin de la journée, lui, il dit, c'est bien beau ton affaire, mais ce Dieu-là, moi, j'en veux pas. Parce qu'il ne rentre pas dans mon équation de la justice, je ne le comprends pas. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Et donc, ça se peut à ce moment-là que la bonne approche, ce ne soit pas d'essayer de répondre à toutes les preuves pour y montrer que le texte est inspiré de Dieu. C'est pour ça souvent qu'on dit qu'il faut retourner à l'Évangile. Je vais aller lui raconter l'histoire de l'Évangile parce que c'est à la croix que je viens résoudre cette équation-là de l'amour de Dieu et de la sainteté, de la justice de Dieu dans sa compassion, dans l'expression de son amour. D'accord? Souvent, ça va être ça ma porte d'entrée. Donc, les deux approches sont valables. Puis, je vais être sensible à la personne avec qui je suis en train de parler. Donc, l'approche déductive commence avec la conviction que Dieu est l'auteur de l'Écriture, continue avec la prémisse que, par définition, Dieu ne peut pas se tromper. Puisque Dieu ne peut pas se tromper, si les Écritures sont la parole de Dieu, la Bible est sans erreur. Il y a deux approches encore dans ça. Juste pour compliquer un peu encore les affaires, il y a deux approches par rapport à ça. On va les appeler l'approche déductive évidentialiste et puis l'approche déductive présuppositionnaliste. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Oui, Gérard, brièvement, très brièvement.
Quand on parle de la compréhension de la Bible, des erreurs qu'il peut y avoir, ou, etc., et la perfection, il y a deux manières de le voir aussi. C'est phrase par phrase, et puis il aurait dû mettre ce mot-là au lieu de ce mot-là, puis le A aurait dû être en avant au lieu d'en arrière, etc.
Okay.
Ça, c'est textuellement
okay.
Des erreurs. Mais il il y a la pensée de Dieu aussi qui est exprimée au travers de la Bible. Et quand que Dieu parle au travers de ses prophètes, c'est là qu'il n'y a pas d'erreur. C'est que les prophètes ont exprimé la pensée de Dieu d'une façon parfaite.
OK, mais l'approche inhérentiste de la Bible, OK, va dire que ce n'est pas seulement des concepts que Dieu a communiqués, mais que Dieu était souverain aussi lorsque l'auteur a écrit. D'accord? Donc, il était là aussi dans le choix des mots où l'auteur est en train d'écrire. Donc, ça va un petit peu plus loin. Donc, deux approches, l'approche déductive évidentialiste, puis l'approche déductive présuppositionnaliste. Ça va? On va voir la première. L'approche évidentialiste défend qu'il y a de solides arguments philosophiques pour l'existence de Dieu et de bons arguments historiques pour démontrer la divinité de Christ. Cette approche affirme donc que les différents portraits dépeints de Jésus par les quatre évangiles et autres documents historiques concordent au moins dans les emphases essentielles. Donc, cette approche-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on ne commence pas en prouvant la Bible par la Bible. On prouve la Bible en prouvant que Dieu existe, mais ils croient qu'on peut prouver que Dieu existe. D'accord? Donc, ils ne sont pas tout à fait présuppositionnalistes. Vous allez voir, le présuppositionnaliste, il dit, non, tu sais que Dieu existe. C'est une évidence. Puis je ne peux pas vraiment te le prouver. Fait que si tu ne le sais pas, je vais prier pour qu'à un moment donné, tu le saches. Mais je ne peux pas prouver l'existence de Dieu. Les évidentialistes, ils disent non, il y a des évidences. Il y a des évidences dans l'univers qui nous amènent à conclure que logiquement, la vision la plus logique de l'univers, c'est celle où il y a un Dieu créateur. La vision la plus sensée de l'existence de l'être humain, comment on explique un paquet de choses dans ce que vous m'entendez le plus souvent faire, là, des fois lorsque je vais argumenter ou dans les messages, c'est ça que je fais souvent. D'accord? Mais comme je vous dis encore une fois, c'est pas que les approches s'opposent les unes aux autres. Les évidentialistes, ils disent, logiquement, la chose la plus logique à croire, c'est l'existence de Dieu. Je ne peux pas prouver vraiment, mais en logique, je pourrais en faire un argument très, très solide. D'accord? De la même manière, ils vont dire, lorsqu'on regarde l'ensemble des Écritures, que je crois que la Bible est sans erreur ou non, lorsque je regarde toutes les informations qu'on a sur Jésus, ce qui est le plus logique de croire, c'est que Jésus est vraiment Dieu le Fils, est vraiment divin. Quand tu regardes son histoire, quand tu regardes les récits qu'on a sur Jésus, quand tu regardes son impact dans l'histoire, c'est difficile de passer à côté de ça. D'accord? Bon, les gens, en général, quand vous jasez avec les gens, ils vont être prêts à admettre que Jésus était sûrement un grand sage. Les évidentialistes, ils disent, non, s'ils s'intéressent vraiment à Jésus, ils vont se dire, un peu comme le centurion, cet homme était le Fils de Dieu. D'accord? Il était plus que simplement un homme. Ça, c'est les évidentialistes. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui, vas-y, David. Parce que peut-être vos questions vont juste affirmer ou clarifier des choses pour les autres. Oui. Oui.
Le problème, c'est que l'approche inductive que les évidentialistes utilisent, c'est complètement assez probabilistique dans la nature. Tandis que les présuppositionnistes, eux, ils présupposent les éléments par lesquels on réfléchit, par exemple, par la logique.
Oui.
Et qu'à partir de là, on est capable de prouver que Saint-Dieu a prouvé que tout le monde sait que tout le monde sait, tout le monde assure, les moments par lesquels on vit que qui vient de Dieu. Là, on parle de la loi de la logique.
Oui. Oui, exactement. Fait que le présuppositionnaliste, lui, ce qu'il va dire, c'est tout notre système de logique, toute notre manière d'argumenter, même ça, on n'a pas de certitude que c'est logique. Donc, le plus simple, c'est de prendre comme présupposé que Dieu existe. Et une fois que j'accepte ce présupposé-là, plus la parole de Dieu s'éclaire dans mon cœur, dans mon esprit, plus je me rends compte que c'est vraiment ça qui fait le plus de sens. Mais je n'arriverai pas à tout l'argumenter, à tout le débattre, cette affaire-là. D'accord? Ça, c'est l'approche présuppositionnaliste. Oui, François. Juste parler plus fort, s'il te plaît. Non. Dans le sens que tu trouves que les arguments tiennent, on peut s'en servir. Ben moi, je vous dirais, ce qui est utile, c'est de comprendre comment les gens vont venir à saisir ça, à saisir que la Bible est bien la parole de Dieu. Puis avoir tous ces outils-là dans mes mains. Oui, alors, je vais juste le répéter pour l'enregistrement. Quelqu'un donc qui ne voudrait pas reconnaître les deux arguments qu'on trouve dans Romains 1, hein, qui dit qu'on a une conscience, puis toute la création nous parle de l'existence de Dieu. Cette personne-là ne veut pas tout simplement se soumettre à Dieu. Blomberg serait d'accord avec toi dans le sens qu'à la fin de son chapitre, il dit, puis j'ai mis cette citation-là à la fin de la leçon, il dit, je suis frappé de voir à travers toutes mes années, lui est dans le milieu universitaire, fait qu'il est toujours en train de faire ce genre de débat-là. Les gars sont invités dans des campus ailleurs que les séminaires, et puis ils sont toujours en train de discuter avec des gens qui veulent aller dans la réflexion, tout ça. Puis il dit, je suis surpris de plus en plus à travers les années de voir à quel point il y a très... Dans les faits, en réalité, il y a très peu de gens dans la société qui s'opposent à la Bible sur la base d'une question vraiment fondamentale comme l'inhérence. En général, leurs questions sont beaucoup plus fondamentales, elles sont existentielles. Donc, leur question, ça va être plutôt, par exemple, Dieu ne peut pas exister avec la souffrance qu'il y a dans le monde. D'accord? Ça ne se peut pas que Dieu existe avec toute la souffrance qu'il y a dans le monde. Fait que la réponse que je te donnerais, François, lorsque tu dis, bon, ben, quelqu'un qui ne veut pas reconnaître, admettons que la création nous parle de Dieu, puis que notre conscience est un témoignage que Dieu existe, je vais être à l'écoute de cette personne-là. Parce que ça se peut que ce soit des questions existentielles, beaucoup plus existentielles qui viennent. Je ne sais pas si c'est ici que je citais ça dernièrement, mais un des principes que tu apprends en counseling, c'est qu'en général, ça prend 45 minutes avant que la personne te dise pourquoi elle est venue te rencontrer. D'accord? Fait que... Tu placotes, tu écoutes, tu fais parler, puis à un moment donné, après 40-50 minutes, la vraie affaire vient de sortir. Mais c'est la même chose lorsqu'on est en train de faire ça. Et c'est pour ça, là je vais dire quelque chose de gros, c'est vraiment stupide d'essayer de présenter l'Évangile à quelqu'un sans être capable de l'écouter comme il faut. C'est vraiment insensé parce que Jésus était extraordinaire, il écoutait énormément les gens avec qui il parlait, d'accord? J'ai besoin d'entendre c'est quoi là, qui se passe, c'est où qu'il est. Puis l'Esprit peut me conduire dans ça, à aller voir ces choses-là. Fait que c'est pour ça que lorsque je saisis ces différentes approches-là, il me lance une balloune. Puis là, c'est « ouais, mais la Bible, tu sais, qu'est-ce qu'il dit que la Bible? » Fait que là, j'ai entendu parler des prophéties, c'est n'importe quoi, c'est du Nostradamus. C'est peut-être pas sa vraie question. On va aller l'explorer un petit peu ensemble. Mais il faut que tu restes à l'écoute parce que je peux passer une heure là-dessus, puis dans le fond, c'était pas ça sa question. C'est qu'il y a trop de souffrance dans le monde, puis c'est pour ça que Dieu n'existe pas selon lui. Tu sais. Fait que, vous comprenez, je suis vraiment à l'écoute, on est en dialogue ensemble. Puis à la fin de la journée, c'est le Saint-Esprit qui convainc. D'accord? Mais le Saint-Esprit se sert de son intelligence puis de mon intelligence. C'est ça qui est en train de se passer, puis de sa parole. Donc, je veux me servir de mon intelligence, je veux voir comment l'Esprit conduit la conversation, comment l'Esprit conduit. Est-ce qu'il est en train de faire une œuvre dans son cœur ou est-ce qu'il est juste en train de réagir? D'accord? Je l'ai déjà compté à quelques reprises, là, je vais le faire très brièvement, mais lorsque je faisais JBEC, est-ce qu'il y en a qui m'ont entendu parler de cette affaire-là? Je rentre dans un appartement, puis il y a un couple, finalement, c'est un couple d'homosexuels qui sont là? Oui? Non? OK. Je vais y aller brièvement, là. Mais je suis en train de faire JBEC, on fait du porte-à-porte, tout ça. D'habitude, on est supposé d'être deux, trois personnes. Là. Bon, c'est moi le chef d'équipe, on était impair, ça allait pas bien pour ça. Fait que je pars tout seul, je cogne à une porte. Charmant jeune homme qui m'ouvre la porte, je rentre, il dit « Viens, on prend un café ». Le gars est prof à l'école, puis il enseignait un peu la pastorale, je ne me souviens plus comment on l'appelait à l'époque, mais le catéchèse, tout ça. Sympathique, pose plein de questions, on engage la conversation, il a abordé des sujets qu'il ne connaissait pas parce qu'il devait enseigner ces sujets-là finalement. Puis là, à un moment donné, il y a un autre gars qui arrive, puis à un moment donné, je comprends, tu sais. Il y a des petits indices, puis là, tu dis, « Oh, OK, eux autres, je pense que c'est pas juste des amis, je pense que c'est des amoureux. » Fait que je suis dans un appartement de deux homosexuels. Puis l'autre qui est arrivé après, ben il était moins ouvert à la conversation. Il revenait avec des questions plus pointues, puis tout ça. Fait qu'après comme 45-50 minutes de conversation, à un moment donné, il m'a arrêté. Il dit, « Tu vas-tu me le dire, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit sur l'homosexualité? » Elle dit que c'est mal, puis elle condamne tout ça, hein? Bon, c'est là que tu vas aller, c'est là qu'on va aller. Fait qu'on s'en va dans les Écritures, on s'en va dans Romains, tout ça. Puis à un moment donné, en cours de conversation, on était en été, la porte patio était ouverte, il y a, sans s'annoncer d'aucune manière, il y a eu un coup de tonnerre débile mental. Puis là, les trois, c'est comme... Puis je me souviens, il y en a un, celui qui était de où? Puis il s'est pris le cœur comme ça, tu sais, puis un petit peu à la blague, il a dit « Dieu a parlé ». Puis ça s'est comme fini là, notre conversation. Quelques minutes après, je suis parti, tu sais. Bon, tu sais, je peux argumenter avec les Écritures pendant 40 000 ans. Quand il y a eu un coup de tonnerre, il y a eu un petit doute dans son esprit. T'sais. Il y avait une petite coïncidence divine, providentielle, qui était là. Puis qui, fait que c'est pour ça que je vous dis, il faut être à l'écoute de ce qui est en train. Puis ça, là, c'est pas la première fois que je vis ça. Je l'ai vécu avec d'autres mondes, une autre situation aussi que je pourrais vous conter. L'affaire du plafond. Tuile de plafond qui tombe juste à côté de quelqu'un pendant qu'on est en train de parler. La personne a dit tout de suite la même affaire. OK? Fait que, bon, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une méthode d'évangélisation, là. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la même chose que Blomberg disait dans son chapitre. Je disais ça sur le web cette semaine. Il y a beaucoup, beaucoup... Non, c'est dans Tim Keller sur la prière. Excusez-moi, trop de lecture. Des études qui démontrent qu'il y a énormément de gens qui se disent athées, qui reconnaissent qu'ils prient de temps en temps. D'accord? Est-ce que c'est une prière comme nous on l'entend? Ça, c'est une autre histoire. Mais ils prient un être quelconque, même s'ils sont athées. D'accord? Il y en a beaucoup. Fait que c'est juste pour dire qu'il faut garder tous ces aspects-là à l'esprit lorsqu'on est en train de jaser avec les gens. Puis il faut avoir cet éventail-là lorsqu'on est en train de... J'aime pas argumenter, j'allais dire argumenter, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire dans le fond, c'est qu'on n'est pas là pour argumenter. On est là pour dialoguer. On est là pour les accompagner là-dedans. C'est ce que Jésus faisait, puis des fois, Jésus arrêtait le dialogue puis il laissait la personne s'en aller parce que, en fond, c'était existentiel, son affaire. Le jeune homme riche, c'était une question existentielle. C'est « moi, je suis au centre de mon univers. » C'est pas Dieu qui va être au centre de mon univers. Il aurait beau avoir fait toutes les preuves qu'il voulait, qu'il était vraiment le Messie, ça aurait pas répondu, ça aurait pas suffi. Donc, l'approche évidentialiste, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « ben logiquement, on peut regarder... » Puis la vision du monde la plus sensée, c'est de croire dans l'existence de Dieu. Puis on peut faire cet argument-là avec les gens. Moi, je vous dis, c'est valable jusqu'à un certain point. Ça dépend de l'ouverture des personnes. Puis je peux le faire à partir des Écritures aussi, là. D'accord? Parce que je crois que la meilleure chose est toujours quand même de semer la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Fait que je vais aller faire cet argument-là comme Paul le faisait. Je vais aller vers Paul à Athènes, des choses comme ça. Et donc, ils vont dire la même chose pour Jésus. Jésus, comme personnage historique, avec les témoignages historiques qu'on a, le plus logique, c'est de penser qu'il est Dieu le Fils, qu'il n'est pas juste un homme. Il a trop bouleversé l'histoire de l'humanité. Le récit de cette époque-là, le personnage qui nous... Il ferait des arguments, par exemple, en disant, vous avez juste à voir sa philosophie de vie que Jésus a enseignée, qui était contre-culturelle, qui venait bouleverser un paquet de stéréotypes pour dire cette vérité-là venait d'ailleurs. Par exemple, ce serait un genre d'argument qu'on pourrait faire, d'accord? Encore une fois, ce n'est pas un argument scientifique... qu'on ne peut pas démonter, là, d'accord? Mais ce qu'on cherche, c'est à engager la conversation, le dialogue avec les gens. Et donc, un des arguments qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, bien, quand je découvre qui est ce Jésus-là, même si je ne l'ai pas bien cerné, je n'ai pas bien saisi encore qui il est totalement, mais je découvre que c'est un personnage qui dépasse le cadre humain normal. Mais je regarde comment est-ce que lui traite l'ensemble des Écritures. Puis pour lui, ce livre-là est inspiré de Dieu. En fait, ce livre-là était, il était lui-même l'accomplissement du livre. Tu sais. Fait que l'approche déductive, évidentialiste, elle va dire, bon, ben voici pourquoi la Bible est parole de Dieu. La Bible est parole de Dieu parce que Jésus-Christ est vraiment fils de Dieu et que Dieu existe vraiment. D'accord? Voici des évidences qu'on a. Et une de ces évidences-là, c'est que l'Église a reconnu rapidement les 27 livres du Nouveau Testament comme parole de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on arrive avec des trucs comme on a vu dans les dernières semaines, où les gens lancent des ballons sans avoir vraiment réfléchi, l'Évangile selon Thomas, c'est la preuve qu'ils ont caché des livres. Fais 5 minutes de recherche pour savoir il a été écrit quand cet Évangile-là, s'il te plaît, parce que quand tu fais ça, tu es en train d'attaquer la sélection des livres. Tu sais, va le lire, puis va le situer dans sa datation. Va le situer dans sa datation, parce que je veux dire, il peut pas, il n'y a pas de témoin oculaire rendu là, là, on s'entend? L'approche présuppositionnaliste, je suis au milieu de ma page 2, l'approche présuppositionnaliste croit que certaines des prémisses des évidentialistes doivent être affirmées tout simplement sans pour autant être défendues. Donc, c'est un petit peu ce que David disait. Lorsque David, tantôt, a fait son résumé, j'avais le goût de te dire, « Ah, OK, donc David, tu es présuppositionnaliste. » D'accord? Parce que tu te dis, « Oui, mais c'est beau la logique humaine, mais la logique humaine est elle-même logique. » Est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur nos déductions logiques pour dire que ça se tient? L'approche présuppositionnaliste, elle va dire, même ça, cette démarche-là de démonstration, d'argumentation, c'est futile parce que c'est trop facile à contrecarrer. Puis moi, j'ai eu la conversation avec un agnostique, quelqu'un qui a quitté la foi évangélique, puis qui est arrivé à l'endroit où il dit, selon moi, il doit y avoir un Dieu qui existe. D'après moi, il y a un Dieu qui existe. C'est ça qui me semble faire le plus de sens. Mais ce Dieu-là ne s'est jamais, 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 jamais révélé à nous. Il n'y a eu aucune communication avec nous. Tout ce que vous appelez révélation de Dieu, ça ne tient pas la route. D'accord? Donc, la Bible, tout ça, ça ne tient pas la route. Donc là, la discussion que j'avais avec lui, j'ai dit, OK, puis j'ai dit, est-ce que tu vas terminer athée avec ça? Ben, il dit, ça se peut. Ça se peut que ce soit ça la fin de ma course, c'est que je sois athée. Mais il dit, j'aime les valeurs de la Bible, par exemple. Mais j'ai dit, je comprends, tu ne peux pas construire de système de valeurs sans la Bible. Sans une révélation, sans l'existence de Dieu, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'éthique justifiable. L'éthique qu'on a, c'est une éthique de survie. Le darwinisme enseigne une sorte d'éthique de survie, tu sais. Fait que c'est au plus fort la poche, là. Les beaux-là, ça fait absolument aucun sens, sinon qu'on est en train de tester des vaccins là-bas pour se sauver nous-mêmes. On s'entend. Mais à part de ça, là, l'histoire des réfugiés qu'on n'en reçoit pas assez au Canada, peuvent bien rester chez eux. De toute façon, on est en train d'épuiser les ressources. Vous comprenez que ce n'est pas ça que je crois, là, j'espère. D'accord? Mais fait que ça, c'était la discussion que j'avais avec lui. Puis il dit, je comprends que ça va être difficile. Je sais que j'en ai perdu quelques-uns, là, mais lui, ce qu'il m'a dit, il dit, je comprends que ça va être difficile de construire une éthique, une morale, une moralité, si je finis athée. Mais il dit, je pense qu'on va pouvoir en construire une quand même. Juste sur le sens de dire, bon, ben on va se donner un sens, on va s'inventer un sens, puis parce qu'on va aimer ce sens-là, ça va être le nôtre. Les gens avec qui vous parlez ne sont pas loin de ça. Il y a bien des gens avec qui vous parlez, vous leur dites, mais c'est quoi le sens de ta vie? Mais moi, j'ai choisi ça. J'ai choisi ce sens-là. Ma vie a ce sens-là. Sur quelle base? Moi, j'ai choisi ça. Oui, Karine. Oui, 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 ça serait une vision matérialiste, le communiste, ça serait une vision matérialiste de l'homme. La mise en commun, le partage pour pouvoir survivre ensemble, c'est une vision matérialiste. Oui, oui. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a toutes sortes de difficultés après, parce que pour de vrai, l'être humain pose des gestes éthiques qui confondent toute logique si l'être humain n'est pas sacré. Il faut qu'il y ait quelque chose en nous qui dépasse la matière pour expliquer certains des gestes qu'on pose. Puis ces gestes-là, on les pose tous. Fait que quand vous jasez avec quelqu'un puis la personne a dit, moi, le sens de ma vie, c'est moi qui l'ai choisi. C'est celui que je me suis donné. pour de vrai, là, cette personne-là, ça va être ça dans des micro-décisions de sa vie. Ça va être ça pour décider qu'elle quitte les gens qu'elle aime parce qu'elle veut s'accomplir elle-même, tout ça. Mais dans la société, lorsqu'elle fonctionne au quotidien, là, elle ne voudrait surtout pas que tout le monde fonctionne comme ça. D'accord? Elle ne voudrait pas vivre dans une société où tout le monde choisit le sens de sa vie. Vous comprenez? Je veux dire, il n'y a pas de problème avec Polytechnique, il n'y a pas de problème avec Columbine, il n'y a pas de problème avec ces affaires-là. Il n'y a aucun problème. La personne qui a fait ça, c'est le sens qu'elle avait donné à sa vie. Pourquoi on se casse le pompon avec ça? D'accord? Donc, ces gens-là, lorsqu'ils vous disent, ben moi, c'est moi qui trouve le sens à ma vie, une des choses que j'aime discuter, que j'aime aborder avec eux, c'est simplement leur dire, OK, donc on pourrait construire une société sur cette base-là. Fait que les choses les plus effarantes que tu vois, il n'y a pas vraiment de problème éthique. Au fond d'elles-mêmes, elles le savent très, très bien qu'il y a un sérieux problème. D'accord? Donc, c'est, encore une fois, les chrétiens ont fait ça. Hein? Des fois, on va vous le dire dans les messages, on va dire, voici la théologie que tu crois, puis voici la théologie que tu crois. C'est la base sur laquelle tu réagis, comment est-ce que tu te comportes, ça, c'est ce que tu crois pour de vrai. L'autre, c'est celle que tu aimerais croire. On dit ça souvent. Bien, les gens à l'extérieur, ils ont le même cerveau que nous, ils font la même chose. C'est cute ce que tu te dis là, ça c'est pour donner un sens à ta vie quand tu es en train de prendre une bière le vendredi soir, puis tu réfléchis sur le sens de l'univers, mais quand il y a quelqu'un qui va te couper sur la route, tu es vraiment d'accord qu'il y a un policier qui intervienne pour ta sécurité. Ça c'est des règles communes, tu sais. Lui c'était le sens de sa vie de couper tout le monde puis de frapper tout le monde. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Ben, peut-être quand tu prends une bière le vendredi soir, tu es en sécurité. Mais si tu es sur la route avec tes enfants, vous irez écouter pour le fun Louis-José Houde. Suivre la parade, je pense. Je pense que c'est celui-là. Suivre la parade sur l'avortement. Lorsque sa blonde s'est fait avorter. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant ce qu'il lance là. Puis à la fin, il dit une petite phrase. Il dit, moi, je suis pour l'avortement. Mais il dit, c'est drôle, quand c'est ton enfant qui est éliminé, là, quand c'est ta progéniture, il dit, c'est drôle, tu ne penses plus exactement de la même manière. Fait que c'est ça. Il y a les choses que tu veux te donner pour te donner bonne conscience, puis il y a les choses, dans le fond, qui sont là pour de vrai dans l'être humain. Donc, l'approche présuppositionnaliste a dit, non, ça ne sert à rien d'essayer de faire tous ces arguments-là. Comme Dieu n'est pas démontrable, il faut simplement partir de cette prémisse-là. Puis, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont discuter avec les gens. Donc, on le fait tous aussi. Ils vont discuter avec les gens en disant, Dieu existe, c'est à lui de se montrer, se révéler à eux. Et puis, à quelque part, en eux-mêmes, ils croient ça. Fait que je n'ai pas essayé de tout prouver. Je vais plutôt l'exposer aux Écritures, je vais l'exposer à l'Évangile. Je ne vais pas aller dans tous les débats avec lui, d'accord? Et une fois que tu crois ça, les Écritures prennent tout leur sens. Donc, dans un sens, on l'est probablement tous un peu aussi, d'accord? Définition de l'inhérence. Définition de Paul Feinberg. L'inhérence signifie que quand tous les faits seront connus, là c'est important, d'accord, parce qu'on va mettre un certain nombre de nuances pour avoir une définition solide. L'inhérence signifie, je suis au bas de la page 2, que quand tous les faits seront connus, les Écritures dans leurs textes originaux, interprétées correctement, seront prouvées complètement vraies dans tout ce qu'elles affirment, que ce soit en lien avec la doctrine, la moralité, la vie, les sciences sociales ou la physique. Je vous laisse le relire, ça va, puis je vais juste aller sortir quatre éléments de cette définition-là. Quand tous les faits seront connus, c'est évident qu'on ne connaît pas tout. D'accord? C'est très, très évident qu'on n'a pas toutes les informations. Et donc, lorsqu'on affirme l'inhérence des Écritures, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à la fin de l'histoire, là, ça va juste être clair pour tout le monde que les Écritures étaient inhérentes. Mais ce n'est pas un argument circulaire dans le sens que ce n'est pas un argument où on pousse le problème en avant et on dit « Ah, il semble y avoir des erreurs simplement parce qu'on n'a pas toutes les informations. » Il y a un peu de ça, mais ce n'est pas seulement ça. Cette déclaration-là repose sur le fait que chaque fois qu'on a déclaré qu'il y avait des erreurs, pas chaque fois, bien souvent quand on a déclaré qu'il y avait des erreurs dans la Bible, le temps, les découvertes archéologiques sont venus, au contraire, venir prouver que la Bible était vraie. D'accord? Donc, lorsque les chrétiens regardent en arrière dans l'histoire, ils disent combien de fois des affirmations historiques sur des peuples qui ont existé, sur des villes qui ont existé, sur des choses comme ça, que pendant 20, 30, 50, 100 ans, on disait non, c'est faux, ça n'existe pas, c'est un mythe, c'est pas là. Hop, 100 ans plus tard, il y a des découvertes qui sont faites, puis finalement, ça vient confirmer, d'accord? Donc, c'est un argument qui dit, progressivement, on va voir des choses probablement, puis ça va venir confirmer ça. Mais donc, ça admet qu'actuellement, il y a des choses qui peuvent sembler tout simplement fausses, mais sur la base de l'histoire, des découvertes qu'on a faites, on dit non, on fait quand même ce pas de foi-là de dire, c'est pas parce qu'elles semblent fausses qu'on va admettre l'idée que la Bible soit fausse. Est-ce que ça va? Les Écritures dans leurs textes originaux, alors évidemment, deux choses évidemment, on ne possède pas les textes originaux, mais deuxièmement, il faut vraiment que vous retourniez à la leçon lorsqu'on a regardé toute la transmission, la conservation, tout ça. En même temps, on est clairement suffisamment près des originaux pour pouvoir s'appuyer sur le texte qu'on a entre les mains, solidement. Interpréter correctement, alors évidemment, je veux dire, c'est simple. Par exemple, je l'ai fait avec le Cantique des Cantiques. Quand j'ai mentionné que pendant des siècles, littéralement pendant des siècles, c'est extrêmement difficile de trouver des écrits par des pasteurs, des théologiens ou quoi que ce soit qui reconnaissent que cette anthologie poétique-là, c'est des poèmes érotico-amoureux. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est ça, c'est une histoire d'amour. C'est ça qui est le cœur du livre lui-même. Après ça, bien sûr, je peux lire à travers ce livre-là, je peux lire l'amour de Dieu, puis je vais faire des liens à travers les Écritures, parce que Paul nous dit qu'effectivement, le mariage entre un homme et une femme, c'est là pour parler de l'amour, le mariage entre Christ et l'Église. Donc, je vais faire ça, je vais aller voir ça, mais je vais aborder le texte en le respectant dans ce qu'il est en train de dire premièrement. D'accord? Donc, c'est ça qu'on parle d'interprétation, d'interpréter correctement le texte. Puis là, les genres littéraires sont super importants. Lorsqu'on s'en va vers l'Apocalypse, il faut comprendre le genre apocalyptique. Lorsqu'on s'en va vers les livres historiques de la Bible, il faut comprendre qu'ils ne définissaient pas l'histoire comme on définit l'histoire. D'accord? Nous, on va dire qu'un livre historique est un bon livre d'histoire lorsque je ne suis pas capable, idéalement, de lire les présupposés de l'auteur. C'est ce qu'on disait avant. Déjà, on nuance ça pas mal. Mais on va dire, par exemple, il écrit l'histoire du Québec, puis il essaie le plus possible d'être factuel. Je ne peux pas lire de quel côté de la clôture il se trouve l'auteur. Aujourd'hui, on a tendance à faire le contraire. Fait qu'on disait avant, ça, c'est des bons livres d'histoire. Puis là, tu t'en vas lire les évangiles, puis là, tu dis, ouais, mais c'est comme, il y a des événements qui sont un peu organisés pour communiquer un message, tu sais. Ouais, mais c'est l'histoire telle qu'il l'a concevait à l'époque. Puis ça, c'est important de le savoir. Il n'était pas en train volontairement de vouloir communiquer quelque chose de faux. C'est qu'il prenait les événements de l'histoire pour parler aussi d'un message que ces événements-là portaient. Là, aujourd'hui, on est rendu un petit peu ailleurs. On va reconnaître qu'il faut savoir quelle est la position d'un auteur lorsqu'il écrit un livre. Ça m'aide à avoir une lecture plus objective. D'accord? Même avec un livre d'histoire. Je veux savoir, oh, mais il est où lui-là? Là? Il est-tu séparatiste ou il ne l'est pas lorsqu'il écrit son livre? Ça m'aide de savoir ça. Ça va juste m'aider à avoir une lecture plus juste. D'accord? Donc, interpréter correctement les Écritures. Vrai dans tout ce qu'elle affirme, que ce soit en lien avec la doctrine, la moralité, la vie, les sciences sociales et la physique. Certains ont voulu limiter l'autorité de la Bible au plan spirituel et éthique, mais l'histoire de l'univers et de l'humanité en particulier, la vision du monde, les implications pour le salut des hommes sont tous inextricablement liés dans la Bible. La Bible est inhérente dans tout ce qu'elle affirme. Je ne peux pas avoir un salut si ce salut-là ne s'inscrit pas dans l'histoire. OK? Il faut que ce soit des faits historiques. Il faut que Jésus soit vraiment mort. Il faut qu'il soit vraiment ressuscité. Ça peut pas. Autrement, on l'a vu, la théologie libérale, c'est ça qu'elle a fait à travers le 19e, le début du 20e siècle. La théologie libérale a perdu son âme, a perdu le salut, parce qu'elle a voulu dire, bon, ben, la Bible est vraie lorsqu'elle affirme des choses éthiques et morales, spirituelles. Pour le reste, ce n'est pas vraiment important qu'elle soit vraie. D'accord? La Bible, c'est... Tout le salut des hommes, toute la vision du monde, l'existence humaine s'inscrit dans l'histoire. Je peux pas juste dire ça. D'accord? En même temps, je vais aller interpréter correctement aussi les Écritures. Par exemple, un exemple vraiment, vraiment nono. Des fois, on va aborder les Écritures, puis on va dire, bon, ben ils vont parler d'un lever de soleil. Puis là, donc, ça voulait dire qu'ils croyaient que la Terre était au centre de l'univers. C'est ça qu'il est en train d'affirmer. Mais aujourd'hui aussi, on parle de lever de soleil et de coucher de soleil. T'sais. C'est pas ça que ça veut dire. Est-ce que littéralement, il est en train d'affirmer, nous avons réfléchi sur la question, nous les auteurs de la Bible, puis on croit que la Terre est au centre de l'univers. C'est même pas une question qui se posait. D'accord? Fait que j'ai pas besoin d'avoir ça pour pouvoir dire ça. Fait que c'est pour ça qu'on parle de bien interpréter le texte, puis d'aller voir qu'est-ce que les gens eux-mêmes croyaient à ce moment-là. Est-ce que ça va? Oui? Est-ce que vous me suivez ou c'est juste trop théorique ce matin? Oui, Mathieu, c'est bon. Tu as des petits yeux, mais tu es avec moi. C'est bon, merci. D'autres objections à l'inhérence. Alors, certains ont voulu dire, écoutez, pourquoi est-ce que Dieu ne se serait pas adapté à l'être humain? L'être humain est imparfait. Est-ce que Dieu ne pourrait pas venir nous rejoindre dans notre imperfection puis nous donner un livre imparfait, mais se révéler à travers ce livre-là? Un petit peu l'approche de Karl Barth que je parlais tout à l'heure, d'accord? Et le problème qu'on a avec ça, c'est qu'on s'en prend aux attributs fondamentaux de Dieu. C'est comme si, dans le fond, ça revient un peu à faire un Dieu sur mesure. Par exemple, lorsqu'on aborde toute la question de damnation éternelle, comment est-ce que Dieu peut damner éternellement? Il me semble qu'à un certain moment donné, il va falloir que Dieu fasse juste comme effacer tout ça. Mais Dieu va demeurer saint éternellement, puisque le mal qui a été fait, c'est un mal qui est là. Il ne va pas devenir bien après 4 milliards d'années de damnation. D'accord? Fait que si ça n'a pas été pardonné, si ça n'a pas été purifié, ça demeure un mal éternel. Je peux pas me faire une espèce de Dieu sur mesure. Mais certains vont dire, ben, pourquoi est-ce que Dieu ne se serait pas adapté à l'homme? Donc, s'il y a des choses qui sont fausses, c'est parce que Dieu s'est adapté aux hommes, tout simplement. Et là, ils vont faire une comparaison avec Jésus. Ils vont dire, ben, on a la preuve que Dieu s'adapte à l'homme. Dieu est devenu humain. Le point, justement, c'est que Jésus était parfait dans son humanité. Donc, la Bible est parfaite aussi. D'accord? Oui, Josiane. Ouais, les autres, ils vont se dire, on va espérer, mais ce n'est pas une certitude. C'est loin d'être une certitude. Tu ne t'appuies pas sur quelque chose de solide. Puis le problème, c'est que quand tu t'en vas plus loin, en fin de compte, tu te dis, bon, ben, si Dieu n'est pas vrai, qu'est-ce qui reste de vrai, puis est-ce que le vrai existe? Tu sais? Fait que là, tu aboutis toujours à la même place. Tu aboutis à la place où c'est toi qui définis la vérité, puis la vérité n'existe pas. Puis l'être humain ne croit pas ça. Fondamentalement, je veux dire, ceux qui croient ça se suicident, là, vous comprenez? La vision du monde, la philosophie de l'absurdité de l'existence humaine, c'est la seule chose qui tient pour eux. La vie est absurde, la vie n'a aucun sens, il ne faut pas lui trouver un sens, puis quand tu n'arrives plus à en jouir, tu mets fin à ça. Fait qu'il y en a qui sont conséquents, ils vont jusqu'au bout de leur raisonnement. D'accord? Mais il y a très peu de gens là, qui sont prêts à assumer ça. Les gens ne se suicident pas parce qu'ils pensent que la vie est absurde. Les gens se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à être heureux avec ce que leur vie devrait faire comme sens. Ils savent ce qu'ils voudraient, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. D'accord? C'est pas parce qu'ils trouvent que la vie est absurde. Ils savent le bonheur qu'ils voudraient, puis ils n'arrivent pas à le trouver. Ils croient vraiment dans le bonheur, puis ils se suicident parce qu'ils disent « je ne l'ai pas ». Ça va? C'est complètement différent comme raison qui pourrait te pousser au suicide. Dernière page. Oui, Gérard, brièvement.
J'ai réfléchi à ça depuis tantôt, puis je me demande comment le poser, mais je vais le dire de cette façon-là. Jésus il est venu confronter le monde des ténèbres aussi.
Oui.
Okay? Alors ça, existentiellement, on sait que le malheur existe.
Oui.
On sait que la mort existe, on sait qu'il y a un fait. Là. Quand il dit que je vous ai donné la paix, non comme le monde donne, bien... Moi, c'est sur ces paroles-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. La joie que je ne comprenais pas, la paix, la vie en abondance. Et tout ça, quand que c'est venu, la présence de Dieu est venue dans ma vie, là, j'ai compris que, ben oui, si ça c'est vrai, la vie éternelle est vraie aussi.
Mm-hmm.
Alors, je suis arrivé à une conclusion intérieure où ce que je n'ai pas argumenté ce que la Bible disait et ce que la Bible ne disait pas. J'ai tout simplement accepté un fait. Maintenant, si Dieu existe, pourquoi le malheur existe? Bien, la question est aussi simple que ça. Si Satan existe, qui est venu, qui est voleur, qui est venu pour tuer, pour le détruire. C'est un autre raisonnement, ça, qu'on peut apporter à travers ça.
OK, fait que je vais juste arrêter là. Je ne sais pas si c'est assez fort pour tout le monde. Mais dans ce que tu as dit, tu as fait les deux raisonnements. Tu dis, je me suis converti, j'ai donné ma vie à Dieu parce que j'étais dans une quête d'une paix qu'il me promettait. J'ai fait le pas de foi, j'ai expérimenté cette paix-là, donc j'ai cru ensuite dans le reste. D'accord? Ce serait l'approche présuppositionnaliste. Puis après ça, tu dis, mais à ceux qui posent la question, pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance puis du mal dans le monde? C'est parce que le diable est là, puis on peut leur expliquer. Ah, OK, là, tu es en train de dire qu'on peut raisonner ça. Logiquement, on peut expliquer ces choses-là. Et tu vois, on se promène, tout le monde, on se promène d'un à l'autre. Je vais raisonner logiquement avec les gens, mais en définitive, il va falloir qu'ils fassent un pas de foi. Et donc, c'est toutes des ressources que j'ai, puis je vais être à l'écoute de la personne avec qui je parle. C'est pour ça que je vous dis, les gens ont des questions existentielles derrière leurs arguments. Je vais être à l'écoute des questions existentielles. Puis comme je dis, à la fin de la journée, c'est le Saint-Esprit qui convertit. Donc, je veux déposer l'Évangile. Je veux déposer l'Évangile, puis c'est entre Dieu et eux, à la fin de tout ça. Beaucoup des débats sur l'inhérence, je termine avec ça, là. Beaucoup des débats sur l'inhérence sont liés à la question de l'harmonisation des Évangiles. Okay, si vous avez des discussions avec un petit peu plus avec des profs à l'université, département de théologie, tout ça, une bonne partie des débats sur l'inhérence des Écritures sont liés à l'harmonisation des trois Évangiles synoptiques. Quand tu as juste un livre qui dit quelque chose sur un événement, c'est difficile de dire que c'est faux. Mais quand tu as trois livres qui disent des choses un petit peu nuancées sur les mêmes événements, là, tu t'en vas vers les récits et tu dis, est-ce que ça se tient tout ça? D'accord? Et la personne à qui je faisais référence tout à l'heure, ça a été là que ça a commencé. C'est avec les Évangiles. Commencer à essayer de faire une harmonisation. Puis à un certain moment donné, lui, dans son cœur, il a dit, OK, je sais qu'il... Puis il me l'a dit. Il dit, je sais qu'il y a une explication possible pour toutes les difficultés d'harmonisation. Mais à un moment donné, j'ai décroché puis j'ai dit c'est trop peu probable comme explication. Fait qu'il y a certains événements dans les évangiles où lorsque tu essaies de les placer puis de dire mais là, j'ai peut-être vraiment une contradiction entre ce que Jean va dire, entre ce que Luc est en train de dire puis ce que Matthieu est en train de dire, admettons. Il y a une explication possible. Jusqu'à date, il n'y en a pas de situation où il n'y a pas une explication possible. Mais des fois, c'est comme OK, il faut vraiment qu'on aille. Juste cette possibilité-là, là, c'est pas super probable comme explication. Et donc, il y a un pas de foi qui est fait là. Mais dans tous les cas, alors si jamais pour vous, c'était ça qui était votre énorme questionnement, il y a des bonnes lectures à faire, entre autres Blumberg, qui a écrit, je ne suis pas sûr si c'est en français, « Historical Reliability of the Gospels », excellent ouvrage qui va travailler juste ça sur les évangiles puis sur leur harmonisation. En conclusion, puis je vais terminer avec le dernier paragraphe parce que je dois m'arrêter ici. C'est Blumberg qui dit « Je suis continuellement impressionné aujourd'hui, comme tout au long de ma vie, du nombre de personnes qui prétendent avoir des objections intellectuelles à la foi chrétienne historique. Certains en ont, mais si je discute avec eux assez longtemps, les plus grandes barrières sont plutôt existentielles. » Lorsqu'on parle des barrières existentielles, c'est le bien, le mal, l'éternité, la souffrance dans le monde, l'amour. Ça, c'est les questions existentielles qui sont derrière. Si je veux me rendre là, ça me demande d'être à l'écoute des personnes avec qui je parle. Et oui, dans ce sens-là, si je les aime, je pense à une situation que j'ai vécue dernièrement, ça a pris 2 heures pour qu'on se rende à cet endroit-là. Là. D'accord? Puis on était dans les Écritures tout le long. On était en train de discuter avec les Écritures tout le long. Mais après 2 heures, il y a quelque chose qui est sorti. Là. Fait que ça prenait cette patience-là. Il fallait que je sois pas, que je n'interprète pas toutes ces questions comme une volonté ferme de rejeter Dieu ou de rejeter l'Évangile. J'aurais fermé la porte trop tôt. Je ne me serais pas rendu jusqu'à cet endroit-là, le soft spot, où son cœur vient de s'ouvrir. Puis, dans le fond, c'est pour ça que tu doutes de Dieu. Dans le fond, c'est pour ça. Puis j'ai besoin de me rendre à cet endroit-là. On va prier. Père éternel, merci pour ta parole. Seigneur, c'est des grandes questions, puis c'est des questions importantes. Puis je crois vraiment que les gens qui vont dans des milieux plus instruits, qui vont faire face à des questions, et au fur et à mesure qu'une société s'instruit, il y a toutes sortes de choses que les gens attrapent sur la Bible, toutes sortes d'affirmations par-ci, par-là, qui, qui nous demande à nous d'avoir une foi intelligente. Seigneur, garde-nous à travers ça de nous appuyer sur des arguments. Parce que c'est vraiment ton esprit qui va convaincre. Mais Seigneur, je veux grandir dans ma foi, je veux grandir dans ma connaissance de ta parole, je veux grandir dans ma compréhension de ta parole, je veux apprendre de Paul, apprendre de Jésus, apprendre de chacune des personnes qui annoncent ta parole à travers les Écritures et à travers l'histoire, Seigneur. Je te prie d'affermir ceux qui, dans leur cœur ici, pourraient avoir des difficultés à accepter que la parole de Dieu a été vraiment entièrement inspirée par toi, jusque dans le choix des paroles que tu as données aux auteurs, Seigneur. Et je te prie de nous équiper pour être à l'écoute lorsqu'on va dialoguer avec les gens, pour vraiment écouter leurs questions et puis les conduire tranquillement vers ces bonnes réponses, mais être à l'écoute aussi des questions qu'il y a derrière leurs questions, ou derrière leurs attaques, derrière leurs affirmations. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.